Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission Écoforum, l'émission c'est sur Radio Grenouille. Aujourd'hui, on attend l'arrivée d'un pas longtemps de Subida, un élu des quartiers nord. Et Subida aussi il fait partie des résistances de Marseille Souffrance et de plusieurs associations qui va nous parler des problèmes des quartiers nord. Aujourd'hui, avant de commencer, on va parler de quelque chose qui va passer à Marseille qui est très intéressant, c'est Les salaires de la dette. Un film de Jean-Pierre Calon. Les salaires de la dette, c'est une projection qui va avoir lieu le lundi 13 décembre 2010. On va être au point bascule, 108 rue Breteuil. Qu'est-ce que c'est Les salaires de la dette? C'est un film qui a été préparé, produit par un groupe, si vous voulez, de production de La Ciotat. Ce sont des amis qui ont fait un travail, ils sont partis en Afrique, ils sont partis partout. Pour dire quoi? Pour dire justement tous les problèmes qu'aujourd'hui sont face, si vous voulez, à l'économie, comme on étrangle les pays. Et ce film il va avoir lieu le 13 décembre à 18h30, il y a 20h, au point bascule. Donc, on vous invite tous justement à venir. Pour ça, il faut s'inscrire directement au point bascule ou soit par mail contact@ecoforum.fr. Ce qui est très intéressant, que sur ce film on va inviter justement un des acteurs, un des participants du film, Victor Nsouci, qui est un militant congolais. Il sera là pendant 3 jours, donc Marseille profitera justement de le rencontrer. Ça, c'est la première nouvelle que je voulais vous faire passer en attendant Subida Mengeni. Donc, pour ce film, si vous voulez savoir plus, évidemment, vous pouvez aller sur le site Ecoforum, www.ecoforum.fr. C'est là que vous pouvez avoir toute l'information sur ce film, la bande d'annonce. Et d'ailleurs, si vous voyez la bande d'annonce, vous allez comprendre les tempos de ce film et la force de ce film. Il faut bien dire merci à Jean-Pierre Calon, qui est le producteur de ces films. D'ailleurs, ces films, Les salaires de la dette, en deux mots, nous parlent un petit peu comment ces pays qui sont si riches, ils deviennent si endettés. Parce que qu'est-ce qui passe? C'est la même chose qui est passée au Chili, par exemple, quand j'étais beaucoup plus jeune. Nous avons des mines, ça veut dire qu'on a des ressources naturelles magnifiques, mais on ne sait pas comment l'exploiter parce qu'on n'a pas la technologie, on n'a pas les camions, on n'a pas les bus, on n'a pas les machines nécessaires, si vous voulez, pour faire tout ça. Donc, qu'est-ce qui passe? Ce qui va passer, si vous voulez, qu'on va s'endetter, on va demander, si vous voulez, justement, de l'aide. Et comme on va s'endetter, qu'est-ce qui va passer? Ce qui va passer, c'est qu'au lieu d'être un pays riche, on s'endette de plus en plus. L'Afrique, c'est la même chose. Et l'Afrique, si vous voulez, c'est le même problème. Et les films, ils le montrent d'une façon magnifique. Et ce que j'ai bien aimé de ces films aussi, d'ailleurs, il y a quelques interviews des grands dirigeants de l'FMI. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant de ces films, c'est qu'ils nous montrent, si vous voulez, des gens qui nous parlent avec le cœur. Et Victor, par exemple, ce militant congolais, vous le verrez, il sera parmi nous. C'est un homme qui parle, qui milite pour l'Afrique, qui milite pour les droits de l'homme, il milite pour sortir de cette dette dégueulasse, on peut dire. Donc vous voyez très bien comment aujourd'hui, par un film, on peut faire passer les choses. Donc j'ai fait un appel vraiment à tout le monde qui souhaite venir, parce que je me suis battu pour que le film passe justement ici. Donc je vous demande vraiment, les lundis 13 à 2010, tous les gens, tous les copains qui souhaite venir, vous m'envoyez un mail à contact@ecoforum.fr et je vous dirai justement qu'est-ce qu'il faut, et comment il faut faire. Et vous trouverez toute l'information, comme je vous dis, au www.ecoforum.fr. Voilà pour l'information. Et maintenant, il vient d'arriver un petit peu en retard notre ami Subida Mengini, qui est un élu de quartier nord 13-14. Et aujourd'hui, avec elle, on va parler. Première chose, je vais commencer pour la présenter. Et c'est pour moi, c'est une femme militante. D'ailleurs, je vais raconter en deux mots après comment j'ai rencontré Subida et comment petit à petit, si vous voulez, on a sympathisé pour travailler ensemble. Donc, première, Subida, si tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, comment tu es arrivé là. Voilà, une présentation, un portrait de toi.
Bon, moi, j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, particulièrement la Busserine, là, sur le 14e arrondissement. Je suis allée à l'école, les études, etc. Et très tôt, à 16 ans, donc, on militait en tant qu'animateur sur les quartiers, etc., pour lutter par rapport aux gamins, pour qu'il y ait une amélioration des conditions d'accueil des enfants dans les centres aérés, dans les écoles, etc. Et j'ai été fondatrice de l'association Femmes Sheba qui travaille sur le 14 et 15e arrondissement de Marseille. Ensuite, je suis par ailleurs chargée de territoire politique de la ville au département. Je travaillais en tant aussi que développeur sur la politique de la ville, à la ville de Marseille, à l'État et depuis 10 ans sur le conseil général. Et je suis aujourd'hui élue en mairie 13-14 en tant qu'élue, donc adjointe au maire de secteur sur l'aménagement et rénovation urbaine des quartiers.
Voilà, je voulais passer, comme j'ai dit, Subida, elle est devenue une amie pour moi, parce que c'est vrai que la première rencontre que j'ai avec Subida, c'était quand on s'est présenté au 13-14. Et on a commencé, bon, c'était pas mon secteur réel, si vous voulez, pour moi, mais je t'ai rencontré, je voyais que toi, tu disais bonjour à tout le monde t'appelait, et petit à petit, je me dis, bon, c'est rare de trouver un homme politique qui connaît tout le monde, un homme, une femme politique, qui connaît tout le monde. J'ai dit, cette femme, il n'a pas besoin de dire, il fait, il est sur le terrain, tout le monde la connaît, et depuis le temps, on a visité plein de quartiers ensemble. Et comment ça fait que tu es devenu un petit peu quelqu'un qui, dans les quartiers, on te connaît ?
Moi, d'une part, j'ai grandi dans les quartiers et je fais partie des premiers jeunes des années 80, avant mai 81, c'est-à-dire que ça a été un tournant au niveau politique pour nous dans les quartiers. Donc, je fais partie de la seconde génération d'immigration d'origine algérienne. Et qui ont milité sur le quartier, qui ont fait des animations, qui ont fait des colos de quartier. On a mis en place des colos de quartier. La première action de jeunes d'animateurs sur les quartiers 13-14, c'était la première association de jeunes du département des Bouches-du-Rhône. Donc on a milité d'abord en tant qu'animateur et ensuite je me suis lancée dans la marche de l'égalité. Donc je fais partie des piliers de Marseille qui ont structuré, organisé la marche de l'égalité. Et c'est vrai qu'il y a eu un événement très fort sur notre cité, c'est-à-dire que il y a eu la mort du jeune Alaouari Ben Mohamed qui habitait au Flamand mais qui avait été tué à la Busserine, donc dans mon quartier. J'avais pas tout à fait 18 ans, on était encore au lycée. Et donc ça a été vraiment un changement, une révolte, quelque chose qui m'a révoltée. Ce premier jeune quand même qui a été tué par un policier au niveau national. Donc ça a été quand même à Marseille, la Busserine.
C'est voilà. Que je trouve qui est assez beau, que des gens qu'on vit comme ça sans regarder trop le monde autour de nous, ou des fois on se regarde trop à l'intérieur de nous-mêmes et on a tellement de souffrances intérieures qu'on ne regarde pas l'extérieur, on va dire. Moi, ce que je trouve beau, qu'il y a un moment de la vie dans lequel on dit, voilà, on va faire quelque chose pour les autres. Et ça, je trouvais très beau pour la façon que tu l'as dit, parce que pour moi, c'était un peu dans l'écologie, les baleines, Greenpeace qui se mettaient entre l'harpon et la baleine, si tu veux, qui se mettaient entre les deux, entre le bateau qui tuait les baleines et la baleine, ils se mettaient entre les deux. Pour moi, ça m'a marqué et ça m'a fait un changement d'une vie, bon, bien d'autres choses aussi. Donc, je trouve que c'est bien, si tu veux, arriver à s'occuper des autres. Moi, j'aimerais te poser la première question que je voulais te poser, parce que je sais qu'en ce moment, tu prépares des rencontres internationales et tu travailles aussi avec la problématique des Sahraouis, des réfugiés politiques, des réfugiés du climat aussi d'ailleurs. Donc, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que c'est ces la rencontre internationale que vous préparez.
C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas être sensible quand on a grandi dans ces quartiers, qu'on a vécu des injustices. Bon, on parle de racisme, d'inégalité. Aujourd'hui, on dit que maintenant 20% issus de l'immigration, notamment maghrébine ou africaine, sont de plus touchés que les autres jeunes d'autres origines par le problème de l'emploi, c'est-à-dire discrimination à l'emploi, à l'embauche. Bon, ben nous on l'avait vécu déjà, c'est-à-dire qu'on le vivait déjà au niveau scolaire, l'orientation scolaire.
Est-ce qu'il y a vraiment des discriminations?
Ben il y en a bien sûr. Nous on l'a vécu. Alors ça me choque. Nous pour une personne comme moi, ça me choque pas parce qu'on est convaincu depuis très longtemps. C'est-à-dire comme si les quartiers populaires, moi je le vois, ça s'aggrave de jour en jour, la précarité, elle s'aggrave, d'autant plus que j'en ai fait mon métier parce que je suis un professionnel engagé, c'est comme on pourrait dire un cinéaste engagé, comme un Anna, comme toi par exemple, tu es engagé sur l'environnement, c'est pareil. Donc moi j'en ai fait ma profession, je me suis spécialisée, j'ai passé les diplômes pour, bon j'ai un master 2 quand même, spécialisé dans la politique de la ville, et j'en ai fait au fur et à mesure mon métier, et c'est vrai que ça m'a permis de connaître encore plus de quartiers, de faire des études, on était un groupe de jeunes, on disait franchement, on s'est rendu compte que nos quartiers étaient complètement délaissés, nos cités, on n'était pas trop nombreux à l'époque, bon déjà cette inégalité, on le ressentait parce qu'on allait à l'université ou alors on allait au lycée et on se rendait compte qu'on était un ou deux issus des quartiers et notamment d'origine maghrébine. Bon, à l'époque, il y avait un petit peu d'Africains, un petit peu d'Antillais, mais très peu, on n'avait pas la population comorienne qu'il y a aujourd'hui, donc il faut le remettre dans l'histoire. Donc déjà, par rapport à cette discrimination, on la vivait déjà au niveau orientation scolaire, études. Moi je pense qu'elle a beaucoup qui auraient dû être médecins qui aujourd'hui font autre chose, d'autres qui auraient pu être juges qui aujourd'hui font autre chose. Il y avait vraiment au niveau compétences et puis au niveau intelligence une grosse perte, et ça continue, c'est-à-dire que même nos enfants, après je vais parler de la cause Sahraoui etc, pourquoi je suis là, même nos enfants, on se rend compte, troisième génération même de couples mixtes, et ça a été prouvé, une nouvelle étude qui est sortie hier, bon, moi, on le sait, ben, ils vivent encore plus que nous cette discrimination. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'empire vu qu'il y a de moins en moins de boulot. Eh ben, évidemment, les 20% dont on parle, ce sont les quartiers. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a 10% à l'époque, dans les années 80, 10% d'égalité, c'est comme ça qu'on a créé la politique de la ville. Aujourd'hui, il y en a 20%. Et on sait que c'est très bien que c'est chez nous. C'est-à-dire que ça continue. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que je me suis toujours intéressée à ce qui se passe dans le monde. Parce que je pense que le local dépend du mondial. C'est-à-dire que ça, c'est une ouverture. Quand on fait des études, on fait de l'économie, on sait très bien que c'est lié. C'est-à-dire que si on morfe en bas, c'est parce qu'en haut, eh ben, il y a un partage financier, il y a un partage, je dirais, du gain par quelques personnes, et qu'en bas, ben, c'est toujours les mêmes qui morflent. Donc, si on n'a pas un regard mondial sur la pauvreté, sur la misère dans le monde, et puis, quand même, on vient de ce monde-là. Donc,
avant de nous parler des rencontres, des problèmes des Sahraouis, étant donné que tu nous poses ces problèmes comme ça, je voulais te demander, est-ce que dans ta vie, par exemple, parce qu'on dit, voyez, aujourd'hui, l'immigration, tout ça, est-ce que cette immigration qui vient, parce que vous avez une rencontre qui s'appelle immigration, qui lie tout le problème d'immigration, est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans les quartiers qui on sent que Marseille, c'est une des villes les plus pauvres de France. Ah. Et en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est une des villes où il y a moins de violence.
Oui, c'est vrai.
Donc, tu l'attribues à quoi
La solidarité qui est vraiment méditerranéenne, je pense. C'est-à-dire que les gens qui viennent de ces cultures-là, si on le présente comme ça, il y a quand même un niveau culturel et traditionnel et religieux. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'islam, c'est très basé sur la solidarité, s'occuper du plus pauvre. Si on parle de la zakat, par exemple, c'est-à-dire on était élevé comme ça. Donc on l'a dans cette notion du pauvre, d'aider l'autre, c'est déjà inculqué dans l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut toujours donner un pourcentage à celui qui ne mange pas, à celui qui est plus pauvre que toi, penser à l'autre. Donc ça, c'est une éducation religieuse musulmane, je dirais. Moi, quand j'ai monté Sheba, c'est-à-dire que j'ai amené cet aspect de solidarité qui n'existait pas dans les structures classiques associatives. C'est-à-dire...
Moi, je pense que ce que tu dis, c'est juste pour faire le parallèle, parce que moi, dans l'Amérique latine, on est plutôt... chrétienne, et c'est les valeurs, c'est à peu près pareil. On avait beaucoup de gens sans, qui n'avaient pas à manger, plein d'SDF, on peut dire, mais il n'y avait pas d'SDF parce que tout le monde donnait à quelqu'un. C'est-à-dire que chacun prenait main à quelqu'un. Donc, ouais. Peut-être que c'est un point commun des religions, cette solidarité, cette. C'est pour ça que bon, déjà, beaucoup de gens n'aiment pas la religion, mais la religion, il y a ses côtés positifs,
c'est
la
éducatif.
Preuve, la solidarité et les partages.
Par exemple, il y a aussi un aspect qu'on avait développé à Sheba, style, ils appellent ça les sadaqas, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui offre à manger parce qu'il y a un événement.
Demande Shebab pour les gens
Sheba,
qui ne connaissent
pas. C'est une
association
de femmes qui est créée maintenant, elle a 25 ans aujourd'hui d'existence. Donc 25 ans après, on était beaucoup plus jeunes. Et ça veut dire belle jeunesse parce que c'est parti d'un groupe de jeunes filles qui pensaient à leur mère en disant il n'y a pas de dialogue entre les gens des quartiers, entre les habitants, les citoyens, lambda de la cité. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je m'étais rendu compte, et elle aussi, moi, je suis déjà lancée dans l'animation, j'étais déjà très militante, que par exemple, sur un même palier, quand je faisais mes camps d'ado, je voyais que la maman critiquait l'autre en face, mais tous les deux avaient des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, un qui n'était pas mieux que l'autre, mais ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait la peur de l'autre. Donc, c'était de créer du lien social, de lutter contre l'exclusion, parce que ça commençait déjà avant 94, c'est-à-dire dans les années 85, 84, 85, il y avait ce problème. Et on avait de plus en plus de chômeurs et de jeunes, la crise d'identité dans les quartiers. Moi, je l'ai vécu personnellement, cette crise d'identité, ils ont dit double identité, etc.
Je voulais juste te dire que toi, tu m'as montré cette association et j'étais vraiment étonné de voir que au fond, il y a une vraie vie. Je suis venu 2-3 fois, j'ai vu une quantité de gens autour. Ça veut dire qu'il y a vraiment comme une petite annexe d'une mairie dans laquelle toutes ces femmes bien, tout travaille, tous ils parlent leurs problèmes locaux. Et je trouvais vraiment quelque chose de magnifique autour d'un thé. D'ailleurs, c'est cette, un peu comme l'Amérique latine, si tu veux, autour d'un plat.
C'est aspect convivial.
Cet aspect convivial. Les gens n'y savent même pas, peut-être, qu'il existe ce type d'association. Et je trouve que c'est magnifique.
Oui, parce que les gens, ils apprennent à se connaître autour d'un thé.
De toute façon,
Et le plaisir, c'est aussi de prendre du temps pour soi.
C'est partagé.
Et les mères en souffrance, il y avait beaucoup de drogue. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait la toxicomanie, le sida aussi, qui commençait à se faire connaître. Il ne faut pas oublier que ça fait des ravages dans les quartiers. On a tendance à l'oublier. Moi, je travaillais beaucoup sur les questions de toxicomanie des jeunes. J'ai toujours été précurseur sur beaucoup de projets. C'est-à-dire, les violences urbaines, j'ai travaillé en 10 ans en arrière. J'en parlais hier avec un collègue, j'ai dit, il faudrait bien que tu récupères cet aspect-là, que tout le travail qui a été fait depuis 10 ans, qu'on a arrêté depuis quelques années, c'est-à-dire, le point de vue des habitants sur leur quartier. Il n'y avait pas... Moi, je suis très, très militante sur la participation des habitants et de l'auto-organisation. C'est-à-dire, moi, j'ai lancé le concept en pied de bâtiment.
C'est apparemment, les politiques ne sont pas très fortes.
Ça a été très, très dur, je te le dis. J'ai des conflits énormes parce qu'on changeait les choses. C'est-à-dire qu'en fait, le social classique, il y avait la Dream, il y avait l'Atome et compagnie, la Sistana. Moi, j'étais contre à 100%. C'est-à-dire que ça maintenait les populations. Après une époque de post-coloniale, c'est-à-dire avec un regard toujours de dominant à dominé. Et moi, j'étais révoltée de voir ça. Donc, c'est-à-dire que il faut s'auto-organiser pour s'en sortir. Il faut apprendre pour s'en sortir. Et j'étais très branchée, j'étais un peu tiers-mondiste, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que je lisais beaucoup de documents, Le Courrier, par exemple, international, où on voyait qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'elle disait les Nations Unies ? Si la mère, elle va à l'école, elle éduquera mieux les enfants. C'est-à-dire que si une petite fille, il ne faut pas laisser pour compte les petites filles. C'est-à-dire si les petites filles, on les éduque. Moi, j'ai toujours été très, très, très important là-dessus. Eh bien, ça va être des futures mères vont bien, au niveau éducatif, au niveau soins et santé, s'occuper de leurs enfants.
Ce qui était intéressant, si tu veux, je voyais aussi que la façon de pourquoi ils se réunissaient les gens, c'est pourquoi ils sont très intéressants. C'est pour éviter la drogue, pour éviter la violence, pour éviter que les enfants n'y partent en prison, pour éviter que l'enfant n'arrête à l'école. Et j'ai trouvé que c'est très intéressant pour des problèmes très concrets de la famille. Tout le monde partageait. Il y avait une espèce de thérapie, on va dire, une thérapie collective.
Tu arrives des fois tout le monde qui pleure.
Ouais.
Et d'autres fois, tout le monde, énormément. Il y en a une qui a un problème important grave, elle expose. Et c'est vrai que moi, j'ai fréquenté l'institution très jeune. Donc, devant une instance sociale, les parents, les femmes ne se comportent pas de la même façon. Elles savent très bien, les gens des quartiers, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut dire. Ou ils vont même souvent être muets. Donc moi je l'ai vu quand je gérais des antennes juridiques sur Saint-Mauron, Bellevue, le fait d'être là, permanence avec les gens, ils se livraient plus facilement. Ils se livrent pas de la même façon, ils savent très bien qu'est-ce que c'est institution, il y a toujours la crainte d'institution parce que tiens si je parle trop on va me prendre mon enfant ou alors on va me juger autrement alors que je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire il y avait aussi le... Moi je fais partie de ceux quand même qui ont servi, je dirais, qui ont fait le lien entre les institutionnels pour mieux comprendre ces gens-là dans les quartiers et les habitants. J'ai toujours fait le médiateur en fait. J'ai toujours traduit, décodé et je leur expliquais. J'ai pris pendant des années et des années le traducteur de ces expressions de ces gens-là.
Moi je pense que si tu as réussi, c'est un petit peu parce que tu es une femme de cœur. Tu parles parce que je connais d'autres animateurs de terrain, mais qui n'ont pas cette plus qu'idée à toi de parler avec les tripes, parler avec le cœur, parler avec un vécu. Moi, je voudrais revenir à votre rencontre, qui tu nous dises un petit peu qu'est-ce que c'est cette rencontre.
Tu peux nous la présenter. La lutte, c'est la deuxième rencontre nationale des luttes de l'immigration qui va se dérouler le vendredi 26 et le samedi 27. Donc le 26, ça va se faire il y a un partenariat avec plusieurs structures associatives. Donc il y a Gardanne de plusieurs communes, Gardanne, Septem et Marseille. Marseille, bien sûr, c'est une grande ville. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est parti, Sheba travaille sur beaucoup, on parle des Chibani. Sheba a toujours été en avant-garde. C'est la première structure qui s'occupait des femmes âgées.
Pourquoi le titre, c'est lutte d'immigration?
Les luttes, c'est-à-dire moi, je peux parler que j'ai lutté. C'est-à-dire, c'est continuer. Ouais. De l'histoire des premiers immigrés, leur lutte à eux, syndicale.
Ah, les luttes d'égalité.
De l'égalité pour avoir un accès aux droits, égal aux droits pour tous. C'est-à-dire que on a eu les luttes syndicales, un immigré ou un étranger là-dedans, dans le monde ouvrier, à aujourd'hui. Et nous, comme la Sonchéba, et puis moi j'ai toujours été branchée par rapport à ça, l'idée c'est quoi? C'est de dire, les gens qui travaillent sur ces questions-là, qui sont dans leurs actions, luttent pour l'accès aux droits, contre les inégalités, on va faire une rencontre, on va parler de nos pères, on va parler de nos mères, de leur histoire. Donc la première rencontre, ça a été à Lille, sur les mineurs.
D'accord.
Ce qu'ils ont vécu. Et pareil, moi, je n'ai pas participé. Donc, ça a été quand même proposé par l'EMPIL, qui est aujourd'hui.
C'est quoi?
Alors, c'est une association méditerranéenne qui s'occupe de l'insertion par le logement des plus démunis, qui est une association parente de la Fondation Abbé Pierre. Il y en a sur le plan national. Donc, qui lutte sur ces questions. Et on s'est retrouvés sur d'autres questions sur le peuple sahraoui, qui est quand même comme le peuple palestinien.
Qu'est-ce qui passe au peuple sahraoui, si tu le peux nous rappeler? D'ailleurs, tu m'as invité à venir, mais je n'ai pas pu venir. Mais je voulais te dire, toi, tu étais sur place, raconte-nous un peu.
On a été sollicité par une association... Une association internationale qui nous a demandé de visiter des camps de réfugiés qui se situent dans le sud algérien, donc région de Tindouf. Ce sont les réfugiés sahraouis, il y a plus de 200 000 réfugiés, c'est impressionnant. Ils sont organisés, très très bien organisés, comme des communes. Alors au niveau démocratie, c'est impressionnant parce que c'est eux qui votent, les chefs de quartier, les chefs de département.
Ça dit que c'est la démocratie à 100%.
À 100%, et c'est beaucoup les femmes qui dirigent, de par leur système, leur système à eux, qui est plutôt matriarcal, parce que les hommes étaient nomades, ils partaient chercher du sel, etc. Ils vivaient le vent du sel, c'est historique, c'est quand même des nomades, les Sahraouis, c'est des gens du désert, c'est des Maghrébins, mais berbères, quoi. Donc ils ont une langue à 70% berbère et 30% avec des mots arabes. Donc j'ai découvert, hein, je ne connaissais pas bien, qui est située entre la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie.
Et quel est leur problème ?
Ben, leur problème, c'est qu'en 1976, quand l'Espagne s'est retirée, parce que c'était un pays colonisé comme l'Algérie, comme le Maroc, etc., c'était un des derniers pays qui n'avait pas été libéré par le colon, je dirais. C'était un département de l'Espagne à l'époque. Eh bien, au lieu de donner la terre, alors qu'il y avait le Front Polisario se battait pour leur liberté, c'était des tribus, c'est-à-dire ils se sont organisés entre eux. Il a fallu qu'ils s'organisent entre eux pour créer le Front Polisario. Vous nous avez bien expliqué tout ça. L'Espagne n'a pas fait mieux que de partager le territoire entre la Mauritanie et le Maroc.
Donc, c'est...
Et voilà, le Mauritanie se sent en mal dans cette question parce qu'elle était remise en question, alors que l'Algérie, qui était très révolutionnaire, elle a soutenu le Front Polisario. Elle a dit non, c'est injuste ce qui se passe. Elle était pour qu'on leur donne leur terrain, leur territoire, leur pays. Le Maroc dit non, mais ça nous appartenait avant. Bon, il faut vérifier. Mais bon, on sait très bien que beaucoup de pays dans le monde, ça, par exemple, si on prend le Liban qui appartenait à la Syrie, quand ils se sont partagés, ils ont créé des pays. Kuwait qui appartenait à l'Irak, quand ils sont partis les colons, ils ont créé deux pays.
Donc la première lutte, c'est chercher une reconnaissance.
Une reconnaissance par rapport à ça. Donc les Nations Unies, après, la Mauritanie s'est retirée. Elle a dit « moi, c'est pas moi ». Donc ils ont une petite partie libérée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la fameuse marche verte. Donc le Maroc a dit, Laurent du Maroc a dit « bon, ben, écoutez, allez-y, c'est chez vous ». Donc ils ont fait la fameuse marche verte. Ils ont gardé la moitié plus la moitié de l'autre territoire qui avait été cédé à la Mauritanie. Donc ils n'ont qu'un quart de leur territoire actuellement.
De quoi ils vivent,
ce peuple ?
Et
tout le côté mer, côté bassin mer, et toutes les richesses minières et recherches d'énergie, etc., énergétique, le Maroc a annexé le pays. Voilà. Donc c'est un pays, c'est une zone de conflit, ce qui explique qu'au niveau, comment on dit ça, là, quand ils veulent pêcher, bon, c'est impossible de pêcher sur les eaux, sur ce territoire-là, dans les eaux qui sont appartenant à cette zone de conflit. Ils ne peuvent pas investir pour forer, pour chercher du gaz, etc. Donc, il y a quand même, sauf le phosphate, bien sûr, qui est le numéro 2 au monde de production de phosphate. Donc il y a quand même un problème là-dessus, au niveau économique, ça représente quelque chose pour le Maroc. Et puis, les Sahraouis se battent jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que c'était inégal. Ça ressemble un peu à nos combats à nous. C'est-à-dire
et pourquoi
que
Marseille,
ça n'a rien à voir.
Pourquoi Marseille s'intéresse à ce problème?
Ben, c'est pas que Marseille, hein, c'est au niveau national. Hein, oui, mais... Français. Eh ben, pourquoi nous, on s'intéresse? Donc, on est parti avec quelques responsables associatifs. Ben, pourquoi? Parce qu'on trouve que c'est injuste et que, bon, ben, un pays colonisé, ben, de revenir au peuple qui a été colonisé, tout simplement. Alors, les Nations Unies avaient voté en 76, qui est un référendum. L'obligation d'un référendum, il faut savoir si le peuple veut être indépendant, c'est-à-dire qu'il y a une autodétermination ou pas, ou reste avec le Maroc, et apparemment ça n'a pas été appliqué. C'est-à-dire que à chaque fois quand ils votent aux Nations Unies, je crois que c'est en octobre, là, ça s'est passé, l'année d'avant aussi, pour la France se positionne contre.
Donc,
la résolution des Nations Unies.
Avant de finir la première partie, ouais. En concret, c'est quand
qui
va
avoir
lieu ?
Moi, ce qui m'a touché, c'est les peuples qui sont dans ces camps de réfugiés, ce peuple-là. Beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes et tout, qui quand même sont perfusés par les aides alimentaires de l'ONU à 70%.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire ? C'est quand qui va avoir lieu cette rencontre ?
Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est au moins de venir au niveau humanitaire, d'aider ce peuple dans les camps de réfugiés. Les camps occupés, ils appellent ça les camps occupés, ce peuple-là, qui disent leur territoire occupé, bon, qui est sous l'autorité marocaine, c'est plus délicat, mais nous, on se bat pour qu'ils obtiennent au moins ce référendum, et de l'autre côté, aider ce peuple sur les questions humanitaires, éducatives, etc. Il faut savoir que, justement, les Cubains, l'Amérique du Sud, le Mexique, tout ça, soutiennent la cause sahraoui. Et bon, j'ai assisté à la conférence il y a 3 semaines internationale, 36e conférence par rapport à ce problème d'autodétermination.
On va passer un petit morceau. Musical et voilà, on va continuer. Cette fois-ci, on va continuer la deuxième partie sur tous les problèmes marseillais et les problèmes d'immigration. Voilà, et on va présenter un petit peu le programme. Oui, et bonjour, nous sommes toujours à l'émission d'Ecoforum. Voilà, aujourd'hui on invite Soubida Mengeni, un élu des quartiers nord, quelqu'un qui participe à plein d'associations, une militante, mais depuis des années. Et c'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui faire une émission solidarité, immigration, quartier nord, tout ça est lié pour tout ce qui est environnement, santé, cadre de vie et solidarité. Donc nous sommes tout à fait dans la solidarité et on aimerait que tu nous expliques un peu ce deuxième colloque sur les luttes d'immigration.
Alors voilà, en fait, c'est sous le haut patronage de la sénatrice Ali Boumediene Thierry qui soutient la démarche, le président du MRAP Mouloud Awani et le sociologue Saïd Bouhamama qui va quand même animer toutes les matinées.
C'est à Marseille.
Ça se fait à Marseille, donc pas qu'à Marseille. Ça se fait le vendredi 26 de 9h30 à 12h30 à Septem-les-Vallon.
D'accord.
Donc,
où
eh ben, ça se fait à la salle Aragon.
D'accord. Après ?
Le vendredi 26 de 15h, parce que c'est suivi après d'une soirée andalouse. Donc le thème, c'est quoi ? Le premier thème sur Septem-les-Vallon, c'est entre campagne et ville, les travailleurs migrés dans leur lutte.
D'accord.
C'est depuis les années 60, nous remontons des années 60 à aujourd'hui, que ce soit bien précisé.
Donc c'est un peu la mémoire.
Tout à fait. Ouais. Le 26 novembre de 15h jusqu'à, ça dure toute la nuit avec la soirée musicale.
On danse.
Les mineurs ouvriers dans l'action syndicale. Il y a un très grand groupe andalou qui vient le soir, qui est très connu. Le samedi 27 novembre de 9h30 à 12h30, c'est à Marseille. Ouais. Ça se fait aux locaux associatifs de l'association Sheba, qui sont à la cité de la Paternelle. Et donc c'est l'histoire urbaine et lutte dans les villes.
D'accord.
Et pour les villes. Voilà, pour la dignité.
Donc voilà les.
Donc pour la dignité. Et l'après-midi, donc c'est toujours animé par Saïd Bouhamama, qui est un très très grand sociologue, qui est spécialisé dans ces questions. C'est la présentation, donc l'après-midi, au Théâtre du Merlan. Donc ça se fait à partir de 14h jusqu'à 19h. C'est-à-dire qu'il va avoir le rendu de tout ce qui a été dit au cours de ces trois dernières tables rondes. Et là, c'est la restitution des ateliers de Septem Gardanne, Marseille, le matin, 13-14. Et c'est à la tête du Merlan, donc, par Saïd Bouhamama. Alors, une introduction de 5 minutes. Donc on va faire un hommage à l'Arabie Saoudite qui a été un grand... C'est comme moi, c'est-à-dire c'est un gars qui a lutté par rapport au quartier, au problème des immigrés, notamment des gens issus de la, je dirais, des Harkis, les enfants d'Harkis, parce qu'il est originaire dans le sud d'une autre commune, et notamment par rapport à l'emploi très spécialisé sur la discrimination de l'emploi, qui est plus de notre monde, le pauvre, sur la discrimination raciale dans le monde du travail, et ensuite la lutte associative, donc là moi j'interviens à deuxième table ronde, civique, militante, l'évolution, donc on va parler des revendications et des modes de lutte, parce qu'on se rend compte que plus ça va, plus l'État, c'est-à-dire l'État qui remplace un peu, qui est devenu un État par post-colonial, c'est-à-dire on parle maintenant, on monte la burqa, on monte l'islam d'une certaine manière, le musulman, le noir, l'arabe, on crée des lois racistes, mais on se croirait pendant les colonisations. Donc c'est vraiment, nous on le ressent profondément comme ça. Et donc la troisième table, c'est la lutte politique de l'immigration, c'est-à-dire les lois, tout ce qu'on va parler tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le soir, je vous conseille de venir, il y a un spectacle fabuleux, vive, c'est un spectacle pluridisciplinaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs musiques, et notamment, donc il raconte l'histoire de l'immigration par le rap. Donc il y a la danse, la musique, à partir de 14 ans on peut venir. D'ailleurs il y a eu un grand succès, parce qu'ils ont intervenu dans beaucoup de collèges. Donc je vous invite à venir à ce spectacle, si vous ne pouvez pas venir dans la journée, parce que c'est fabuleux. Voilà.
On va mettre cette information aussi au site Ecoforum, www.ecoforum.fr. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera un petit peu de ce film qui a fait un tabac mondial. Et c'est un documentaire qui s'appelle « Les salaires de la dette ». On va parler tout à l'heure. Mais j'aimerais revenir un petit peu à les grands problèmes des quartiers nord, une grande militante comme tu es. J'aimerais que tu nous racontes un peu, première. Tout à l'heure, tu disais les modes de lutte. Quels sont les modes aujourd'hui pour lutter contre cette discrimination, contre ce manque d'égalité? on avait quelqu'un dans notre groupe de travail qui nous racontait, par exemple, bah, le fait d'être noir, par exemple.
Ouais,
on ne pouvait pas être commercial parce qu'il disait, un noir, ça ne passe pas. C'était aussi simple que ça. Et donc, ils l'ont dit carrément à lui quand il essayait de travailler. Mm. Donc, voilà. Comment on peut faire pour se défendre?
Quand on a postulé à la ville de Marseille, quand on avait 18 ans, 18-20 ans, pour être animateur dans les colos, on nous refusait. Il faut le savoir, c'était raciste. Quand nos parents demandaient juste pour changer de quartier, parce qu'ils voulaient changer de quartier, on refusait. C'est-à-dire qu'il y avait des agents racistes. Alors ça, il faut le savoir par rapport à la colonisation
donc
algérienne.
Ça avançait quand même.
Au niveau des pieds noirs qui sont à l'époque, qu'on retrouve dans la police, des enfants de pieds noirs, etc. Et puis lorsqu'il a fallu bien résorber cette population, les embaucher, l'État avait ouvert des postes. Donc nous, on a subi la suite. C'est-à-dire que l'étabassage de jeunes, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, et j'en ai eu beaucoup des jeunes qui étaient frappés par la police, systématiquement, ou même on leur déchirait la carte d'identité, tu n'es pas français. Ben ça, ça a été très violent. C'était parce que la plupart des enfants de pieds noirs d'Algérie qui n'ont pas supporté que l'Algérie devienne indépendante, ben nous, on a morflé à cause de ça. Et ça continue. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus par ce biais-là, c'est par le biais de l'islam. C'est-à-dire, on diabolise l'islam. Bon, c'est vrai qu'il y a des événements mondiaux, mais il ne faut pas, faut pas mélanger les choses. Et l'islam, c'est, chacun la pratique, c'est le domaine de la sphère privée. Et bon, maintenant, c'est pareil, on est en train aussi de devenir racisé. On le ressent comme ça, c'est pour ça que je défends. Moi, je trouve qu'il y a une continuité dans ces violences qu'on nous fait. Et on se rend compte.
Donc, parlons deux secondes sur cet aspect-là.
Oui.
C'est vrai que l'aspect religieux.
Mais vous savez qu'ils vivent encore plus le racisme. Oui. Moi, je vois comment ça. Ils ne trouvent pas de boulot, si une fille est voilée. Je ne parle pas de la fonction publique. Hein, parce qu'il faut une neutralité.
Donc là, dans les quartiers, il y a des quartiers, c'est vrai que partout, il va y avoir un peu d'extrémisme, peu importe la religion, hein, dans toutes les religions.
Oui, je suis d'accord, il y a des gens
qui font de l'extrémisme et qui mêlent de la politique et qui deviennent dangereux pour
les politiques. Ça, c'est l'islam politisé, c'est autre chose.
Et après, il y a la grande majorité des gens qui pratiquent une religion tout à fait, d'une façon, on peut dire...
Personnel,
tranquille et qui même est positive beaucoup de fois. Donc, toi, tu dis qu'aujourd'hui, au niveau. Qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, les quartiers aujourd'hui, on parle beaucoup d'une grande mosquée à Marseille, par exemple. Qu'il faut des lieux
Moi, je suis pour qu'il y ait plusieurs lieux de prière de partout. Parce que c'est la pratique qui veut ça. C'est-à-dire, il faut prier 5 fois par jour, etc. Nos parents, ils ont été frustrés, il ne faut pas oublier. Moi, je n'ai pas connu les lieux de prière.
Il n'y a pas de lieux de prière.
Il n'y en avait pas. Donc, ils ne pouvaient pas se battre pour ça. Déjà, même d'aller ils étaient algériens, donc, ou de nationalité, d'autres nationalités. Il faut savoir qu'il y avait vraiment une crainte. C'est-à-dire, les syndicats aussi. Moi, je pense, on n'en parle pas, mais il y avait du racisme. Il y avait du racisme dans les syndicats aussi. Donc, il y avait des luttes à l'intérieur, à l'extérieur. Et il y avait faut pas oublier que l'organisation en 1901, c'est-à-dire d'être une nationalité étrangère et de pouvoir s'organiser en loi 1901 en association était interdite avant 1981. Les radios libres, pareil, c'était des associations, donc ils pouvaient pas s'organiser. Si on parle de Radio Gazelle.
Mais si on peut parler. Si on revient à les modes de lutte.
Le mode de lutte.
Et par exemple, juste pour te dire, par exemple, quand même, il y a des avancées, parce que je me rappelle, les premières émissions des Radio Gazelle, les radios libres, tout ça, ça a été toutes les associations qui se sont battues, et on a obtenu aujourd'hui les radios libres, on s'est battu pour ça.
Tout à fait.
Et donc, quand tu dis aussi il y avait des racismes profonds, ça a changé, mais on a avancé. Je ne dis pas que c'est la bonne chose, mais c'est juste pour dire que les luttes, quand les citoyens luttent, on obtient des choses.
Donc,
si tu peux nous dire d'autres formes de lutte que vous avez actuellement.
Il y a les luttes, donc, je dirais, syndicales, les luttes militantes et politiques. C'est-à-dire que donc, le militantisme, on peut ouvrir sur plusieurs. Il y a plusieurs champs hein, de façon de militer. Ça peut être sur la base syndicale, ça peut être sur la base associative, pour faire avancer le chemin public.
Toi, tu es élu
Moi, je suis élu, vraiment, non, mais politique, tout à fait. Ben, moi, je me suis lancée depuis peu, parce que Sarkozy, je l'ai vu arriver. Moi, je dis. Quand j'ai vu qu'un gars comme lui, la façon comme il parlait dans les quartiers, ça m'a pas plu. Et il y en a qui ont suivi. Hein. Je crois pas qu'on a tous eu les mêmes réactions. Moi, je l'ai trouvé vraiment traiter les gens comme des merdes. Et je trouve pour un président... Pour un président de parler comme ça, de dire, qui parle, qui tutoie, pour moi, la France, quand même une culture avec une je veux dire, elle avait une image. On avait Mitterrand, il y a même De Gaulle, tout ça. Il y a eu Chirac, tout. C'est quand même des gens classe. Ouais. Quand ils parlaient d'une certaine façon, représentaient la France. Moi, j'avais une image de la France quand même avec un grand F. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, au niveau mondial, qu'est-ce qui va démolir l'image de la France? Et moi, je n'avais pas envie d'avoir un président comme ça. Donc, c'est à partir de là, même si c'était au fond de moi, moi, ce que je n'aime pas dans les partis, c'est parce que je ne me suis jamais vraiment lancé avant, c'est la récupération. Et quand tu rentres dans l'appareil, on t'écrase.
Ah oui,
moi, je ne supporte pas, j'aime être une femme libre et dire ce que je pense.
C'est le contraire de la démocratie,
voilà.
Beaucoup de fois.
Bon, moi, je suis évidemment plutôt de gauche parce que ça correspondait à mes idées, mais depuis l'âge très jeune. Mais après, quand j'allais dans les réunions, par exemple, au Lagrange ou quoi, quand on parlait, on disait qu'il y avait une discrimination dans les quartiers, qu'il y avait du racisme pour l'école ou pour l'emploi, on disait, allez, arrêtez de conneries, c'est un état laïque, il n'y a pas de différence. L'ai entendu, ça, des grands chefs PS. Hein. Oui. Voilà, c'est-à-dire que pour eux, il n'y avait pas ce problème. Oui. Il existait depuis très longtemps. Mais moi, j'ai déjà dénoncé à plus de 30 ans en arrière cette inégalité. Mais on ne nous écoutait pas, on ne nous entendait pas. Donc moi, j'ai dit, que je vais faire dans ces partis? Ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Donc ça ne m'intéresse pas. Et puis c'est pour faire ce qu'ils veulent, eux, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire ce que moi j'ai envie, mes idées me battent. Donc je me suis lancée dans le tissu associatif où j'ai trouvé un petit peu ma liberté et mon mode de lutte. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai parlé des femmes, j'ai travaillé beaucoup au niveau des jeunes aussi, des jeunes toxicaux, tout ça. Aujourd'hui, je travaille aussi sur les questions de prison, l'emprisonnement des jeunes, leurs conditions et tout. Et notamment, justement, leurs pratiques religieuses et tout ça, où il y a vraiment une non-reconnaissance de ces jeunes-là par rapport à leurs pratiques religieuses.
C'est peut-être une réaction des révoltes aussi. Ça veut dire que si on écrase tout, ça c'est valable partout dans le monde. Quand on écrase trop quelque chose, c'est là qu'il
y a une révolte.
La révolte, oui. Il vient tout seul.
Et j'ai vu aussi pourquoi je suis comme ça, c'est parce qu'en fait, je voyais à l'extérieur qu'avait vraiment, ils vivaient très bien, et que dans nos quartiers, on était écrasés. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des logements et d'emplois dans les quartiers, dans les quartiers difficiles?
Les quartiers, moi, nous, on a eu un espoir quand il y a eu la gauche qui est passée, etc., avec les lois, les trois... Moi, je dirais, franchement, les 5 premières années, ça a été fabuleux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, des chances d'insertion et tout ça. Il y a eu vraiment des rapports.
Des emplois jeunes.
Le rapport Schwarz, le rapport du Bedou. Enfin, il y a eu vraiment des choses intéressantes qui sont, à mon avis, d'actualité aujourd'hui. Les jeunes, il y avait le soutien. Moi, je sais que j'obtenais des sous facilement pour soutenir. Je faisais des projets anti-été chaud. On mettait en place des cinémas de plein air. La guinguette, par exemple, qui aujourd'hui tourne dans le 13-14, je fais partie de ceux qui l'ont monté. Mais de suite, j'ai vu qu'on ne voulait pas dans les institutions. C'est-à-dire, on dérangeait. Notre façon de parler ou de dire les choses dérange. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nous accepte pas avec notre double culture, qu'on amène, on renvoie à quelque chose. Je ne sais pas ce que je peux dire. Moi, ça a été une bagarre. Après, j'ai dit, rien que pour ça, ils ne me veulent pas. Ils me retrouveront de l'autre côté institutionnel.
Oui, mais il y a un problème d'immigration. Il y a un problème d'immigration, mais je pense que c'est plus profond que ça.
Oui.
Les partis politiques, même chez Europe
Écologie... Et même
Ecologie,
les institutions, c'était les mêmes. Hein.
Même Europe Écologie, même...
Allez voir les cadres qu'il y a dans les fonctions publiques, s'il y en a beaucoup d'origine.
On a des groupes qui pilote, si tu veux, le parti, et on dirait qu'ils sont les contraires de la concertation. Ils ont peur. C'est le seul qui a donné un signe fort à un moment venu, c'était comme on dit, quand il a dit on va ouvrir à tout le monde. Et tout à coup, ils ont eu peur, les gens qui sont dedans, ils ont dit
on
va pas ouvrir.
Ils ont peur de perdre leur place.
Ils ont peur
de perdre leur place. Moi, je suis avant toi,
voilà,
je suis légitime,
voilà.
Je suis ici.
C'est exactement le problème. Et en plus, après, quand tu es dans la politique, c'est lui qui est contre. Ça veut dire qu'il y a tous les oiseaux, il doit être dans les mêmes droits. Mm-hmm. Il y a un qui est contre, c'est lui-là, il faut lui couper la tête.
Oui,
donc,
problème
les problèmes
de démocratie.
Les problèmes qui la vraie, les vrais partis politiques.
C'est le terrain.
C'est quand on a la possibilité de s'exprimer. Donc, je voulais que tu me parles un petit peu d'emploi. Qu'est-ce que tu vois? Parce que les quartiers, on a des endroits qui ont 50% de chômage dans certains quartiers.
Oui, pour les jeunes, ça touche qu'à 75% selon le tranche
qu'est-ce
d'âge.
Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là?
Qu'est-ce qu'ils font? Il ne faut pas s'étonner s'il y a des économies parallèles. Hein. Il faut bien qu'ils mangent, que ça rapporte pour s'en sortir. Parce que le problème, les jeunes, ils veulent avoir un bon boulot. Bien sûr, ils ne veulent pas qu'on leur donne 700 euros par mois. Ils ont un vrai salaire. Ils veulent s'en sortir. sortir, mais ils sont tellement cantonnés là-dedans. Quand ils vont, mais c'est la France aussi, ce système français, parce que dans d'autres pays, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des petits boulots pour les jeunes. Il y a pas de petits boulots ici pour les jeunes en France. Vous savez, au Canada, à 13, 14 ans, il peut travailler dans une boutique. Il ne regarde pas la race. Bon, c'est pas la même histoire, certes. C'est pas la
Moi,
même histoire.
Moi, je pense qu'il a
mais ici, franchement, c'est trop dur. On te regarde ta tête. On a déjà, moi, on l'a vécu, nous. Mais c'est encore pire maintenant. C'est-à-dire que ça aurait dû, normalement, nos enfants, ils n'auraient pas dû rencontrer ce problème. On aurait dû les accepter tels qu'ils sont. Ça continue. Il n'y a pas d'emploi dans les quartiers. Marseille, c'est une ville pauvre. Même si il faut qu'ils travaillent ailleurs. Mais même ailleurs, il y a ce renvoi. Moi, j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit, on est partis. J'ai dit, pourquoi vous êtes partis de mon quartier? Parce qu'ici, ils ont un regard sur nous qui est très négatif. On ne nous juge pas sur nos compétences. On nous juge sur notre faciès. C'est-à-dire, si on a, c'est vrai, ils ont une façon de parler, mais je veux dire, il ne faut pas se juger là-dessus. Il faut juger sur leurs compétences. Il faut leur donner la chance. Il faut arrêter. Après, voilà, ça représente combien les jeunes qui font des conneries? Il n'y en a pas beaucoup, en pourcentage par rapport à un quartier. Et s'il en fait, c'est peut-être qu'il y a des raisons aussi à un moment donné.
Oui, c'est vrai que des fois, voilà. On bas, c'est ciblé sur un pourcentage très petit.
Compte, le premier employeur, ça doit être peut-être la vente de shit. Hein, mais je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Moi, je rigole. Je dis, le premier employeur, après Carrefour Le Merlin, c'est Sheba. Dans le quartier, c'est grave. Mais le problème, les associations maintenant rencontrent des problèmes pour les contrats aidés, etc. Donc, on veut tuer aussi la solidarité. Faut être vigilant. Mais les jeunes, c'est pas possible. On est mal barrés. Les contrats, par exemple, en alternance, ça marche pas. Déjà, quand tu es blanc, ça marche pas. Alors que tu es bronzé, tu as encore moins de chances.
Oui, c'est vrai que
c'est... faut le savoir, c'est-à-dire que ces dispositifs, ils sont bidons, même pour le français lambda, le jeune français blanc, hein, je parle quand je dis blanc, c'est pas péjoratif, c'est pour bien faire comprendre aux auditeurs la différence. Déjà, c'est difficile. Alors, il y a le réseau emploi fonctionne à Marseille à 90%, c'est-à-dire c'est pas l'emploi qui va, c'est pas le pôle emploi qui va trouver de l'emploi pour les jeunes. Au niveau national, c'est à peu près, on est entre 40 et 60%. Marseille, c'est 90%. C'est que par réseau. Oui. C'est les copains qui trouvent un emploi, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces jeunes, ils aient de la chance? Ils n'ont pas de chance, hein. Tu es né pour crever. Enfin, excuse-moi, mais je veux dire, tu te bats, faut se tirer. Moi, je leur dis. Mais se tirer où? C'est-à-dire qu'en France, c'est pas possible. Parce que si tu vas dans une autre ville, même comme Paris, c'est la même chose, hein. Tu as peut-être un peu plus de chance. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, on va te cataloguer, quartier, puis Marseille n'est pas particulièrement bien vu. Mais bon, voilà. Et à part les milieux très européens, où tu as un arabe parmi eux ou un noir, peut-être qu'il pourra s'en sortir. Mais si, dans nos quartiers, on moisit même l'aménagement urbain, on ne concerte pas les gens.
Donc là, c'est un bon
ils
appel.
Ils font ce qu'ils veulent, hein, franchement.
C'est un bon appel aux politiques pour régler les problèmes. C'est justement, je pense que pour régler des problèmes profonds d'une société, là, on parle de solidarité, on parle des problèmes des quartiers. Pour régler des problèmes, il n'y a que les gens qui ont vécu le problème qui peuvent aider à résoudre politiquement ces problèmes. Moi, je crois beaucoup à justement, c'est le contraire de la politique des copains. C'est la politique ouverte. Ça veut dire que des gens qui connaissent les problèmes. Si, par exemple, si on parlait des radios, qui de mieux que les directeurs des radios, que les gens qui luttent pour la radio, qui peut comprendre les problèmes.
Radio, je suis d'accord.
Mais aujourd'hui, on voit très bien que tous les lieux citoyens, les lieux qui essayent de faire autrement, ils sont coincés aussi pour les subventions, parce que si on ne suit pas les grands chefs, on nous coupe les subventions. Donc ça, si tu veux...
Il y a un problème d'instrumentalisation des structures associatives des quartiers, donc, parce qu'on leur dit tenir un bureau de vote. Ah ouais, tu as tenu le bureau de la gauche, tu n'auras pas. Tu as tenu le bureau de la droite, tu n'auras pas. Non mais il faut arrêter de les mettre dans les bureaux de vote. Il faut les laisser tranquilles, ces responsables associatifs. Il faut les laisser comme contre-pouvoir. Et le politique, il a intérêt à avoir des contre-pouvoirs parce que c'est ça qui va le faire avancer.
Mais je te donne,
faut pas qu'il soit avec lui.
Je te donne l'exemple des Ecoforum. Nous sommes à presque 3000 articles de presse. Nous sommes à 1700 émissions de radio. Nous, quand on fait de l'écologie, par exemple, ce qui passe à la caisse à la fin, c'est les Verts et l'Europe Écologie. Parce que nous, pendant 30 ans qu'on lutte, à la fin, on est associatif, on lutte. Et à la fin, c'est ce qui se font élire, ce sont des gens qui se montrent une étiquette écologique. Donc, je dis dis pas que tous ils sont qu'une étiquette écologique, parce qu'il y a certains qui les pratiquent vraiment, un tiers, un petit tiers. Les restes, comme tu l'as dit, ils sont des gens qui vont être intéressés plutôt à garder leur poste et à garder leur bénéfice et d'être élus. Je voulais juste passer maintenant à quelque chose que je tiens vraiment à cœur. C'est un film qu'on a insisté de le faire passer à Marseille. Donc, ce film s'appelle « Les salaires de la dette ». Au fond, c'est tout le problème qu'il y a aujourd'hui. L'Afrique, il est sous pression, comme ces pays qui sont riches, ils se trouvent endettés, mais jusqu'au cou. Donc, nous, ce qu'on aimerait, que justement, je vous invite à tous, vous allez au site ecoforum.fr, vous allez voir, on fait deux séances le lundi 13 décembre 2010 à 18h30 et à 20h. Pourquoi on fait des séances? On fait des séances, première chose, pourquoi cette date? Parce que Victor, qui est un grand militant congolais, il sera parmi nous. Les places sont limitées, il y a 100 places parce qu'on n'a pas eu de cinéma, on n'a pas eu de réponse politique justement pour faire ça. Et on va faire que 100 places, donc c'est sous réservation, c'est au point bascule. Et on va voir devant nous un militant, mais Pour vous dire que États-Unis s'intéressent à eux. Ils vont faire des passages partout et on va faire une conférence de presse avec eux pour montrer, justement, pour lancer cette... Les producteurs, c'est un copain de la Ciotat qui a fait un travail mais magnifique, c'est Jean-Pierre Callon. C'est un mec vraiment de cœur qui est parti avec sa caméra, il a risqué sa vie pour faire des choses. Et je trouve que des mecs comme ça, c'est magnifique et j'espère que Radio Grenouille, il va recevoir Victor et on va organiser ça
aussi,
pour que...
Je vous invite
à écouter la bande d'annonce, la bande d'annonce du film dans les sites Ecoforum, vous allez la trouver, ou vous tapez dans différents moteurs de recherche, vous tapez la bande d'annonce du salaire de la dette, vous allez comprendre en une minute la teneur et la force. Évidemment, ça dérange parce que l'FMI, on sait qui est le président de l'FMI en ce moment, qui est le directeur. On sait que c'est Trotskan, donc ça peut-être dérange un peu, mais la vérité, vous savez, il ne faut jamais avoir peur de la vérité. Donc je vous invite à tous, si vous êtes intéressés, contactez-moi avec un mail contact@ecoforum.fr. Toi, tu seras parmi nous dans la tribune pour animer ça, Soubida, parce que tu es quelqu'un. Et pour finir aussi, ça aussi, c'est un film solidarité, parce que l'argent qu'on demande, on demande 5 euros, c'est pour les points de bascule, 3 euros. Et 2 euros, c'est pour les militants qui doivent venir. Donc, on partage les choses. Ça veut dire qu'on fait la solidarité en venant regarder un film. On ne fait que des séances. Donc, si vous voulez venir, contactez-nous rapidement. Et pour finir, j'aimerais... Là aussi, le point bascule a des problèmes économiques. Tout le monde parle, personne aide. Donc, nous, on a décidé de passer à l'acte. Ça veut dire qu'on va faire une fête de fin d'année. Et on a trouvé qu'on peut faire la solidarité comme à Sheba. On peut faire la solidarité, on fait ça à la fête. Donc, je vous invite à tous à une fête de fin d'année. Et ça va être le 20 décembre à partir de 18h30 avec la musique qui va nous amener notre copain de Radio Grenouille.
Et rappeler le venir vraiment aussi sur les luttes de l'immigration. C'est une première et puis c'est que des militants associatifs. Franchement, c'est issus des quartiers, la date. C'est notre bataille, c'est-à-dire que ça a été un choix. On a pris les militants de quartier, on a pas pris des gens qui ont des renommées, etc. Par contre, si on a des chercheurs, c'est pour apporter un plus, un éclairage.
Tu répètes la date, il est lieu.
Vendredi 26 et le samedi 27 novembre prochain. Alors, pour le Théâtre du Merlan, pour le soir, j'ai oublié de dire, il y a des billets en vente, c'est-à-dire pour les gens qui sont vraiment au chômage, etc. C'est entre 3, on demande solidarité entre 2 et 5 euros. Ce que donner 5 euros donne. Et pour les gens un peu plus aisés, on propose 8 euros la participation.
Je reviens juste sur
c'est
la
pour
fête,
aider la conférence.
Sur la fête de fin d'année de Coforon, je reviens juste, ça va commencer à 18h30. On a un repas bio pour être.
C'est bon ça.
Un repas bio, il va y avoir plein de jeunes. Pareil, les places sont limitées, 100 personnes. On va faire la fête aussi.
Tant mieux.
On va mettre la musique. Donc, vous voyez, on peut aussi faire la solidarité en faisant la fête. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a des modes de solidarité qui sont différents. Donc, si vous voulez savoir plus, si l'information n'est pas parfaite, vous allez à www.ecoforum.fr. ecoforum.fr. Vous allez trouver toute l'information. Vous m'envoyez votre mail aussi et on va vous envoyer un mail avec tout le programme et tout ça. Donc, et je vous dis aussi pour finir, parce que c'est l'émission de Ecoforum, la semaine prochaine, moi je suis révolté de voir les anti-parcs nationaux. On s'est battu tellement pour les parcs nationaux. Mardi à 14h30, je convoque à toutes les associations qui vont venir tous en tant que de pro-parc pour dire justement oui au parc national des Calanques, qui non un parc dans lequel on va couper tout son
n'importe
âme,
quoi, hein.
On va couper tout son cœur. Donc c'est là qu'on voit les opportunistes, si vous voulez. Pour une part, on veut défendre, si vous voulez, un parc national des Calanques, et pour autre part, dit ne touche pas ma gloire de faire ce que je veux. On ne peut pas avoir un parc et en même temps tout faire. Oui, un parc, il va avoir quelques restrictions, mais tous les gens qui utilisent aujourd'hui le parc, ils vont continuer à l'utiliser. Ce qui va arriver, c'est autre chose qu'à un moment venu, il faut savoir dire stop, il y a tant de bateaux, on ne va pas mettre 400 000. Il y a tant de... Vous voyez, ce n'est pas des restrictions pour ce que les gens ils font aujourd'hui, c'est juste un peu d'argent pour pouvoir gérer ces sites merveilleux. D'ailleurs, tu parlais d'immigration, d'ailleurs, tu parlais des quartiers nord. Moi, les gens des quartiers nord qui nous accusent beaucoup des problèmes de propreté, par exemple, ces mêmes gens, quand rentrent le Calanque, ils ne salissent pas. Tu sais pourquoi? Parce que ça les appartient. Quand un site t'appartient, tu changes ton comportement. Quand tu te sens rejeté, ça ne t'appartient pas, tu ne les respectes pas.
C'est connu, c'est vrai.
Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Et cette émission, ça a été un peu rapide parce que tu es arrivé un peu en retard, mais c'est la vie. Mais on te remercie, on sent, et je te donne le mot de la fin, un message que tu veux faire passer.
Un message, venez nombreux par rapport aux événements qui vont... Donc le colloque, c'est une première, soutenir ces initiatives. Surtout qu'Essaïd Boumama, c'est quelqu'un de très, très, très qualité, un homme de qualité. Allez voir le film aussi, inscrivez-vous. Venez voir le spectacle le soir. Allez à Gardanne, ceux qui sont à Gardanne. Allez à Septem, ceux qui sont à Septem.
Participez,
aidez financièrement. Mais voilà, c'est-à-dire que la culture du dominant sur le dominé, il faut arrêter. Si on veut s'en sortir pour une justice, une égalité pour tous, eh ben, il faut se battre et il faut venir soutenir ces initiatives. Et mieux comprendre, pour ceux qui ne comprennent pas. Je les invite à venir comprendre les choses.
Voilà. Merci beaucoup et à la
Merci
semaine prochaine.
Merci à vous d'avoir reçu.
Là, descends mon 4x4. Là, descends mon 4x4. Récinération, c'est bon pour les poumons.
Le réchauffement climatique.